بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc la dernière fois on avait parlé de la description physique de Hazrat Isa alayhi salam. On avait expliqué quels étaient les traits physiques, sa grandeur, hein, sa taille, le teint de sa peau, la couleur de sa peau. On avait vu également comment étaient les cheveux de Isa alayhi salam. On a vu également comment il descendra du ciel. Tout comme nous avons une description précise de la physionomie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons dans notre religion également une description précise de la physionomie de Hazrat Isa alayhi salam. Et on avait vu que quand on lit un peu les descriptions physiques de Isa alayhi salam, ça se rapproche énormément des représentations. Hein, les représentations sont certes interdites à l'islam. Dans d'autres religions, quand elles représentent Jésus-Christ avec de longs cheveux, un teint blanc, ça correspond. On peut dire que ça correspond à cette description donc physique. Et ce qui nous reste à voir aujourd'hui, Inch'Allah, et peut-être une dernière fois avant de compléter le chapitre sur Isa alayhi salam, aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir. Enfin, c'est un sujet qu'on voulait aborder avec un peu plus de détails, mais on avait dit la dernière fois, ça risque d'être mal interprété, donc on préfère juste passer en revue hein, ce point en quelques instants et passer à notre sujet. Vous savez, c'est une comparaison des trois religions, comparaison des religions monothéistes sur la personne de Isa alayhi salam et la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On parle d'universalité de cette religion, que c'est vraiment le dîn d'Allah. Et c'est une croyance commune, tous les prophètes depuis Adam alayhi salam jusqu'au dernier des prophètes. Et vous savez que ce qu'on enseigne aux enfants et qu'on retient un peu, hein, quand on parle de définition du kufr. La définition du kufr, c'est de renier une chose annoncée par le Coran ou la Sunna. Si quelqu'un ne croit pas à un des prophètes, par exemple quelqu'un il est pieux, il est religieux, il fait tout ce qu'il faut, mais il dit que, vous donnez un exemple, je ne crois pas en l'existence du prophète Ayyub alayhi salam. Ou alors le prophète Yusuf alayhi salam, c'était une histoire comme ça, il n'a jamais existé, la personne perd iman, c'est du kufr. Ne pas croire à un seul des prophètes qu'Allah Ta'ala a envoyé sur ce dunya, c'est kufr. Ou alors quelqu'un dit la Bible c'est faux, ça n'existe pas. Allah n'a jamais révélé la Bible, ou Allah n'a jamais révélé la Torah. Allah n'a jamais révélé l'Ancien Testament ou autre chose. La personne, même si celui-là, cette personne est hafid al-Qur'an, il connaît la traduction du Qur'an, il est spécialiste en tafsir, s'il ne croit pas qu'Allah a révélé la Torah, a révélé l'Injil, la personne est un kafir. Parce qu'il ne croit pas à un des livres qu'Allah a révélé. Vous voyez qu'avec nos croyances, hein, c'est un tout, on fait un lien avec toute l'humanité, avec l'histoire de tous les prophètes et de toutes les révélations, mais avec la conviction que les livres qui ont été révélés avant n'ont pas eu la garantie de protection de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Tawrat et le Injil ont certes été révélés à leurs prophètes respectifs, mais Allah azza wa jalla n'avait pas pris l'engagement de protéger ces deux livres, alors que pour le Coran, Allah ta'ala s'est fait la promesse que ce Coran restera intact et inviolé. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la la hafizun. Que c'est Allah qui fait descendre donc le Coran et Allah prend l'engagement de protéger ce Coran jusqu'au Qiyam. C'est-à-dire jusqu'à la fin des temps. Même, c'est quoi la pire des époques que l'humanité va connaître? C'est le règne de le Dajjal. Vous avez vu quand on avait parlé de Dajjal avant? Que le Prophète a dit qu'Allah n'a pas créé une créature aussi terrifiante, aussi horrible, aussi dont la fitna, les sources de troubles sont aussi importantes que la personne de Dajjal. Mais même à l'époque de Dajjal, ou vraiment à un moment donné, les musulmans, ils seront en position de force quand ils seront dirigés par Imam Mehdi. Mais à un moment donné, on verra qu'ils seront en position de faiblesse. Ils seront assiégés. Ils seront assiégés dans certaines régions du monde, la région de la Palestine, la Syrie, où ils ne pourront plus rien faire. Ils sont résignés à résister. Quand on dit résister, il y a une différence entre résister et combattre. Combattre, c'est quand vous pouvez lutter contre l'ennemi. Au début, ils vont essayer de lutter, mais à un moment donné, ils ne pourront plus lutter. Ils ne feront que résister jusqu'à ce qu'à un certain moment, ils se disent que autant finir, nous allons sortir demain matin et lutter contre l'armée de Dajjal et on met nos vies entre les mains d'Allah. Et c'est là qu'Allah Ta'ala voit Isa alayhi salam. Donc, à une époque, les musulmans seront
affaiblis. Même les meilleurs d'entre eux, les meilleurs d'entre eux, ce sont ceux qui seront dans la région de Cham, de Syrie, de la Palestine. Ce seront les meilleurs musulmans à cette époque. Mais même ces meilleurs musulmans, avec le degré de iman, ils seront dans une position de faiblesse. Alors, malgré cela, le Coran reste intact. Même s'il y a des milliers de musulmans qui mourront tous les jours en combattant Dajjal, mais le Coran il reste intact, même à l'époque de l'Antéchrist, à l'époque de Dajjal, parce que c'est là la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut ressusciter un mort, il peut ressusciter un troupeau, des cadavres d'animaux, pour que le fermier voit qu'il est na'oud billah, il a des pouvoirs divins et croit en lui. Il peut faire tomber la pluie en claquant du doigt, il peut faire pousser des récoltes en claquant du doigt, c'est-à-dire des choses exceptionnelles, des istikhraj, on appelle ça des miracles, dans le but de détourner les gens, d'éprouver les gens, il peut faire des choses extraordinaires. Mais il ne peut pas changer inna a'tayna kal-kawthar, il ne peut pas. Il ne peut pas mettre inna a'tayna kal-kawthar ou inna a'tayna kal-kawthar. Il ne peut pas changer un C en T ou en C, il ne peut pas. Ne me demandez pas comment ça se fait, c'est comme ça. Si on lit des histoires des shayatines, ils peuvent faire des choses extraordinaires. Le prophète me dit que, petit exemple, hein, avant de dormir, si vous voyez qu'il y a un récipient, couvrez le récipient en disant Bismillah. Parce que si vous couvrez le récipient en disant Bismillah, les shayatines ne peuvent rien faire. Je dis que les shayatines peuvent se déplacer de l'est à l'ouest en une fraction de seconde, ils peuvent faire des choses extraordinaires, mais si vous mettez un petit feuille de papier ou un essuie-tout, bref, sur un verre d'eau, vous avez dit Bismillah, il ne peut rien faire. Ça c'est qudrat d'Allah. Allah leur accorde certains pouvoirs, mais Allah les empêche de faire certaines choses. Principalement quand on dit Bismillah, quand on cite le nom d'Allah. Donc pareil Dajjal, il pourra faire des choses extraordinaires dans le domaine du surnaturel, mais changer un harf ou une voyelle du Coran, il ne peut pas le faire, parce que ce Coran-là, c'est la parole d'Allah. Il est protégé par Allah. Et donc nous voyons donc l'universalité de l'islam, que nous croyons à tous ses prophètes. Nous croyons à Moussa alayhi salam, sans complexe, et avec un respect qui dépasse ce que les Yahoud avaient pour Moussa alayhi salam. Preuve que le prophète est arrivé à Madina et a vu que les Yahoud jeûnaient, quel jeûne ça s'en allait. Quel jeûne ça. Quand le prophète est arrivé à Madina, il a vu les Yahoud, ils jeûnaient un jour. Il a dit, pourquoi vous jeûnez en ce jour? Il dit que c'est en ce jour-là qu'Allah Ta'ala a envoyé son aide à Moussa alayhi salam contre l'armée de Pharaon. Le jeûne de Ashura, qu'on a jeûné il y a quelques temps. On a jeûné. D'accord. Et le prophète a dit que nous sommes plus proches de Moussa alayhi salam que les Yahoud. Nous sommes plus proches de leur prophète que les propres adeptes. Donc nous jeûnons. Parce que Moussa alayhi salam, c'est qui c'est? C'est mon frère. Les Anbiya sont des frères. Et pareil, nous sommes plus proches. Nous avons une conviction saine et pure sur la personne de Isa alayhi salam, le considérant comme faisant partie des ulul azmi min ar-rusul, les grands prophètes. Et cette croyance que nous avons sur Isa alayhi salam est une croyance pure, authentique, comme Allah Ta'ala l'a décrit dans le Coran, sans aller vers des attributs divins que Isa alayhi salam lui-même va rejeter le jour des comptes pour les gens qui ne l'auront pas vu à la fin des temps. Donc ça c'était un petit condensé. À l'origine, ça devait être une étude comparative, avec versé à l'appui des trois religions monothéistes concernant les trois événements, Isa alayhi salam, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et retour de Isa alayhi salam. Mais comme on a dit, ça risque d'être mal interprété, on n'a pas trop l'habitude de parler des autres religions, qu'on parle de l'islam, ça on a l'habitude. D'accord? La fois, il y avait une conférencière qui était venue à la réunion, qui parlait du Coran, en faisant des éloges, la beauté du Coran et tout, mais c'était des fleurs ça. C'était des fleurs qui cachaient un nid de puanteur. Après ces fleurs jetées aux musulmans au visage, après il a commencé à parler du prophète Mahomet. Il dit, moi, en tant que femme, j'aurais pas aimé avoir cet homme comme prophète. Et elle a commencé à insulter un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à dire des choses ignobles. À l'université, ici, à Saint-Denis, d'accord? Une dame qui venait de métropole, d'accord? Et il y avait quelques musulmans dans la salle qui ont essayé d'argumenter parce qu'elle faisait des références. Elle faisait référence à des hadiths complètement inventés, maudou'. Des hadiths qui ne sont, en plus, qui ne se trouvent pas, et des références qui ne sont pas des références sunnites. Comprenez ce que je veux dire. Donc quand il y avait, malheureusement, Il n'y avait pas d'alim dans l'assemblée. Et quand les quelques personnes qui étaient présentes ont essayé de répondre, elle s'est contentée de dire, de toute façon, vous êtes des extrémistes. Vous êtes des extrémistes et je ne discute pas avec les extrémistes. Elle a refusé le dialogue. Alors, ça, c'est permis pas. On entend parler d'islam, si on a l'habitude d'entendre. D'ailleurs, c'est rare qu'un jour passe sans qu'il y ait quelque chose d'islam. Mais bon, parler d'autres religions, et le but, quand on parle des autres religions, c'est pas de critiquer, parce que c'est la religion d'Allah, ça. Ça, c'est la religion qu'Allah a envoyée sur la terre, sur pour différentes oumas, par le biais de des grands prophètes Moussa et Issa. Quand on parle, quand on veut, quand on pense parler à d'autres religions, c'est pour comprendre le cheminement. Qu'est-ce qui fait qu'une religion choisie par Allah, qui est une religion de tawhid, de monothéiste pur, a dévié vers une religion, hein, qui appelle vers d'autres croyances, qui n'est plus acceptée par Allah, inna dina inna Allah al-Islam. Mais je pense qu'on n'est pas encore à ce stade de parler, hein, ouvertement de toutes les adhyanes, mais il était important pour nous de comprendre que quand on parle du retour de Isa al-Islam, qui c'est qui y croit? Musulmans et Nasara. Mais Nasara, ils y croient d'une autre façon. Tout comme leur croyance en Isa al-Islam est totalement différente de notre croyance à nous, malheureusement, leur croyance par rapport au retour de Isa alayhi salam également est une croyance différente aux musulmans. D'ailleurs, quand on parle du retour de Jésus, bien sûr, l'antéchrist, ils y croient également, l'antéchrist, les Nasara, tout comme Gog et Magog, ils y croient également à Gog et Magog. Mais malheureusement, comme on a dit, avec les falsifications, les traductions, etc., etc., les différentes versions également des livres qui existent, qui se contredisent les uns les autres, à un moment donné, ben, on ne trouve plus la réalité du discours. Et Allah avait prévu de le destin qu'à une époque, hein, les gens vont changer le livre. C'est pour ça qu'Allah n'a pas pris la responsabilité de protéger le livre qu'il a révélé à Isa alayhi salam et à Moussa alayhi salam. Ce qu'il nous reste à faire, je pense qu'on va commencer en 10 minutes, hein, je pense que c'est amplement suffisant, c'est de passer en revue les 5 moments forts de la mission de Isa alayhi salam. Lorsqu'on avait parlé de Imam Mahdi, si vous vous rappelez, ça remonte, on avait parlé des moments importants de sa mission, des faits importants de la mission d'Imam Mahdi. Et quand on avait parlé de Dajjal également, on avait vu également quels seront les événements les plus importants, hein, tout d'abord l'apparition de Dajjal. Ensuite, vers quoi il invite? Il invite vers le droit chemin, et puis peu à peu il se déclare être prophète, et ensuite il déclare avoir des attributs divins, jusqu'à déclarer être Dieu. L'étape suivante, c'est passer dans différentes régions pour constituer son armée. L'étape suivante, c'est aller vers tel endroit, on avait cité les noms des pays, jusqu'à aller vers Sham, avec l'objectif d'aller vers Al-Hijaz, le désert du Hijaz, où il y a Makkah et Madina, et arrivé à ces endroits, on avait vu qu'il sera chassé, etc., etc. Donc, on avait vu le parcours de Ad-Dajjal et les points importants de sa mission. Maintenant, concernant le retour de Isa alayhi salam, on a besoin de voir les 5. Moi, j'ai résumé en 5 points, hein. Il y en a qui peuvent dire 4 ou 6. On a retenu 5 points importants de la mission de Isa alayhi salam lorsqu'il retourne sur ce dunya. Et on va voir que la manière qu'il va pratiquer est totalement différente de sa manière de pratiquer en tant que prophète des Nasara. Parce que là, il ne revient plus, il faut encore le préciser, lorsqu'il retourne de ce dunya, ce n'est plus en tant que prophète, c'est en tant que atba', en tant que ummati, on va dire, quelqu'un qui suit la religion du prophète sallam, qui invite vers la religion du prophète sallam, comme on a vu qu'à un certain moment, il avait émis le souhait d'appartenir à cette umma. D'accord? Et si à son époque, Isa al-Islam ne s'était jamais battu, hein, on connaît un peu les citations, hein, celui qui te donne une claque, la joue droite, tend la joue gauche, on voit un peu la mentalité, hein, l'esprit pacifique de Isa al-Islam et des gens de son époque. Mais lorsqu'il revient, tout a changé. C'est lui qui prend l'épée, c'est lui qui mène les gens au combat, et c'est lui qui va tuer de ses propres mains Ad-Dajjal. C'est-à-dire là, il avait une mission. Quand il était prophète, sa mission était d'une certaine façon. Mais quand il revient à la fin des temps, sa mission n'est plus la même. Il devient Amir al-Mu'minin, il devient gouverneur, il devient chef des croyants qui prend le relais de Imam Mahdi, parce qu'il a une mission importante là. Il doit lutter contre le plus grand fitna de l'humanité. C'est pas une mince affaire. Lutter contre le fitna de Dajjal. Alors, nous avons le Messie et nous avons de l'autre côté l'Antéchrist. C'est pas respectueux pour Dajjal, tant pis pour lui, pour Isa al-Islam, non. Deux destins opposés. Deux personnes qui descendent à des régions du monde totalement opposées. D'accord? Nous avons Ad-Dajjal qui descend dans la région près de l'Iran, près de Khurasan, Asfahan, près de l'Afghanistan. Je sais pas comment ça s'appelle ça, c'est pas le Proche-Orient. Ça s'appelle comment? L'Asie, ça, c'est l'Asie, non? L'Asie mineure, je me disais, d'accord? C'est l'Asie mineure. Et nous avons un, subhanallah, al-Masih, Isa alayhi salam, qui descend dans la région de Hacham, précisément en Syrie. Le terme Syrie n'existait pas à l'époque, à Damas, au minaret blanc de la mosquée de Damas. Donc, deux positions géographiques différentes, mais ils vont faire un parcours jusqu'à se rencontrer. Et avant de se rencontrer, vous avez le taqdir est ajib, le taqdir est extraordinaire, la perfection du destin qu'Allah a écrit pour l'humanité et la fin du cycle de Dajjal. Allah fait en sorte qu'à un moment donné, Dajjal, il entend parler, il sait que Isa alayhi salam est venu sur terre. Et il sait pertinemment que la seule créature qui peut mettre fin à ses joies, c'est Isa alayhi salam. Autrement, personne ne peut tuer Dajjal. Personne ne peut tuer Dajjal. Il le sait. Il sait que le seul qui peut le tuer et qui sera à l'origine de sa destruction, c'est Isa alayhi salam. Et donc, quand il sait que Isa alayhi salam est arrivé, il va fuir. Il va aller vers une région du monde en pensant échapper à Isa alayhi salam, alors que Isa alayhi salam a déjà pris la direction. Ça, c'est son destin. C'est comme un bateau qui a flotté, navigué. Un moment donné, il va échouer et il doit échouer à un endroit précis, c'est-à-dire son taqdir le mène vers la région de Cham, vers la Palestine, où il va mourir. En pensant que là-bas, il va échapper à Isa alayhi salam, en changeant de trajectoire, mais c'est là-bas exactement qu'il voit. La preuve de la surprise de Ad-Dajjal, c'est, on verra, quand les musulmans sont encerclés dans la masjid en Palestine, l'armée au complet de Dajjal, armée avec casque, avec leur... on va voir, il y avait des terres, les parures de couleur vert et tout, et les musulmans sont prêts à mourir à shahid, disent maintenant, ouvrez les portes, on va lutter pour Allah. Et Dajjal ne se doute pas qu'à l'intérieur de cette mosquée, il y a Isa alayhi salam. L'homme qui pouvait ressusciter, qui pouvait faire tomber la vitre, il ne sait même pas qui c'est qui est derrière cette porte. C'est-à-dire qu'on avait dit qu'à un moment donné, Allah retire ses pouvoirs. Quand il a lutté contre ce jeune homme de Madina et qu'il l'a tué et ressuscité, après ça, Dajjal n'a plus de pouvoir. C'est fini. Il reste certes un chef, un responsable, un chef de guerre pour les ennemis, mais il n'a plus de pouvoir surnaturel. Donc, il ne sait pas que Isa alayhi salam se trouve derrière ses portes. Lorsque Isa alayhi salam sort, il fuit, il court. Il prend la poudre des scampettes d'Adjal jusqu'à arriver à Bab el-Lut, un endroit en Palestine. Et là, la lance de Isa alayhi salam va le transmettre. Donc, deux personnes envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala dans deux régions du monde différentes, et ils vont faire leur parcours, leur cheminement géographiquement jusqu'à se croiser, et un meurt en voyant l'autre, et Isa alayhi salam lui donne la mort. Alors pour Isa alayhi salam, comme on a dit, petit historique, l'endroit c'est la mosquée au minaret blanc à Damas, donc en Syrie, d'accord. Et immédiatement lorsqu'il apparaît et que les musulmans le reconnaissent parce qu'ils vont voir la beauté de cet homme qui descend accompagné des anges, comme on l'a expliqué la dernière fois, il va dire immédiatement Ukhruju bina ila aduwillah, amenez-moi qu'on aille rencontrer l'ennemi d'Allah. Après avoir rencontré les musulmans, il a pris la relève de Al-Mahdi, il n'y va pas, on pourrait dire, par quatre chemins. Il est là pour un point précis, premier objectif de sa mission, détruire Dajjal. Amenez-moi vers l'ennemi d'Allah, qu'on en finisse. Et là, il prend les armes et il rassemble les musulmans pour lutter contre Ad-Dajjal. Et Dajjal, de son côté, il est apparu, donc on a dit, près de Khorasan, Asfahan, première étape. Et à ces endroits-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va recruter son armée de à peu près 70 000 combattants. On avait expliqué qui sont les personnes qui sont avec lui. On ne va pas repréciser. Ensuite, il va vers la région de Syrie. Là, la Syrie, la Palestine, Hacham. Et ensuite, Al-Irak, l'Irak. Et ensuite, il va vers la péninsule arabe, le Hijaz, Makkah et Madina, chassé par les anges. Et lorsqu'il est chassé principalement de Madina par les Malaïka, il va s'arrêter fi dhahiyatil Madina, aux frontières de Madina. Et là, il va établir son camp. Il va établir son camp, et c'est à cet endroit-là que les hypocrites vont le rejoindre. Il y a les munafiqs qui vont quitter la ville Mubarak de Al-Madina, et ils vont rejoindre Ad-Dajjal. Ce qui fait que dans cette ville sainte, il restera que les gens au cœur pur, les gens les plus sincères, c'est-à-dire les meilleurs des Ahlul Iman. Et donc, On ne va pas expliquer encore, on avait vu à l'époque déjà quand il admirait, pas il admirait, il regardait la masjid, hein, en parlant de du château, hein, de Mahomet, de Mohammed, ça en fait la masjid Nabawi, ça en fait la masjid du Prophète sallam. Et on a vu ça, c'est également un miracle, parce qu'à l'époque du Prophète sallam, de la montagne de Uhud, il va stationner à la montagne de Uhud, on ne reprécise pas tout, de la montagne de Uhud, on ne pouvait pas voir la masjid Nabawi. La masjid Nabawi était petite, c'était petite, petite mosquée. La montagne de Uhud, c'est quand même c'est combien de kilomètres? On va dire de Haram, on va dire au Hud, c'est 10 kilomètres. C'est comme ici jusqu'à Sainte-Marie, hein, ici jusqu'à Sainte-Marie à peu près. On ne peut pas voir. De Hud, on ne pouvait pas voir la Masjid Nabawi, d'accord? Mais le Prophète dit qu'il va regarder, il va dire voilà le palais de Mohammed, et en commentaire dit que c'est la Masjid du Prophète, parce qu'il parle d'une couleur, c'est la même couleur qui est une couleur claire à notre époque. Alors qu'à notre époque, de la montagne de Hud, on voit facilement la Masjid Nabawi. Même en avion, on voit. Même quand on descend en avion, si vous atterrissez le soir et que tout est illuminé, c'est une des plus belles choses qu'on peut voir dans notre vie. On voit la Masjid Nabawi de l'hublot de la fin. D'accord ? Donc Dajjal va s'arrêter sur la montagne de Uhud. Il va regarder, il va dire à ses adeptes que voilà, ça c'est le château de Mohammed, alayhi salatu wassalam. Il va rester là, attendre les munafiqs qui vont le rejoindre, et chassé par les malaïka, il va retourner vers la région de Ash-Sham. Alors, حديث أبو هريرة رضي الله عنه ديك يأتي المسيح من قبل المشرق وهمته المدينة إلى باريس. Il va immédiatement, l'objectif c'est d'aller vers Medina. Il descend près de Uhud et les anges le chassent et le redirigent vers Asham. وهناك à cet endroit il va être détruit. Hadith rapporté par Imam Muslim. حتى ينزل autre hadith de Imam Ahmad dit qu'il arrive près de Medina. Il s'installe autour de Medina. Les hypocrites vont le rejoindre, et là il va aller vers la région de Ash-Sham, et il va aller précisément en Palestine, et c'est là qu'il va rencontrer Isa alayhi salam, qui va le porter le coup fatal, le tuer. Il dit également que à l'époque du Dajjal, très peu de personnes vont survivre, très peu de musulmans vont pouvoir résister, et ces musulmans là comme on a dit en introduction, ils iront vers le bilad de Sham. Ils iront vers la Palestine, vers la Syrie, vers la Jordanie, et ils seront encerclés. Il y aura des groupes de musulmans encerclés à Damas, d'autres en Al-Urdun, en Jordanie, d'autres, une région que je ne trouve pas l'équivalent, Urbat Afir, ça doit être une région de un pays là, mais je ne sais pas en français qu'est-ce que ça donne. Et enfin, on fait le Quds, Palestine, où il y a la Masjid Aqsa, là aussi il y aura un groupe de musulmans, et il est décrit que Hisaran Shadida, ils seront assiégés, mais ce sera un siège difficile. Ils seront en position de faiblesse. Il y a un hadith qui parle précisément, hein, qui donne un peu de détails, hein, sur les difficultés. Il dit que وَيُصِيبُهُمْ مَجَاعَةٌ شَدِيدَ, hein, ils seront tellement affaiblis qu'à un moment donné, ils n'auront même plus de quoi se nourrir. Et le hadith, hein, de Uthman ibn Abil As, radiallahu anhu, hadith rapporté par Imam Ahmad et Al-Hakim, donc c'est du costaud, il dit qu'à un moment donné, il y a une petite phrase qui nous intéresse, une latifa comme on dit, حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمْ, hein, à un moment donné, ils n'auront plus rien à manger, jusqu'à ce que certains vont prendre comment on pourrait dire ça, Al-Qaws, ils vont prendre leur arc, un arc, d'accord. Ils vont le brûler, le casser pour manger les miettes. Et ils vont prendre l'arc, c'est-à-dire un truc fait en cuir, je ne sais pas quelle matière, ils vont le brûler, hein, pour qu'il ne soit plus consistant, l'écraser pour avoir quelque chose pour se nourrir. C'est-à-dire, ce hadith décrit la famine, hein, comment ils n'auront plus rien à manger. Et là, certains ulama, ils expliquent, vous voyez, la description de ce hadith, ça prouve bien qu'à cette époque, les combats se feront par des lances, épées, boucliers. Parce qu'on ne peut pas interpréter ça d'une autre façon. On ne peut pas dire que quelqu'un il prend son kalachnikov, son mitraillette et il fait fondre les bois. Ça, c'est pas possible. C'est bien qu'on parle du bois, on parle du cuir. Et le truc de cuir, je ne sais pas comment ça se fait. Il y avait une époque aussi, un sahaba, une époque de famine, il avait fait la même chose. Il y avait un hadith qui décrit qu'il avait pris quelque chose qu'il avait en cuir. Il avait brûlé d'abord, écrasé en morceaux, juste pour avoir quelque chose qu'il pouvait mettre sur son estomac pour faire un poids. Ces sahaba, les prophètes, à un moment donné, je ne sais pas si c'était pas d'une bataille, il n'y avait vraiment rien à manger. Donc, cette notion-là de manger quelque chose à base de cuir, cette personne va refaire. Et donc, les savants disent que ça prouve que, à cette époque, les armes utilisées, ce seront les armes anciennes. et non pas les armes modernes. Ça rejoint les thèses qu'on avait avancées depuis très longtemps, qu'à l'époque de Dajjal, il n'y aura plus la même technologie. C'est sûr et certain. Vous savez, à partir du moment où il n'y a plus de pétrole, à partir du moment où il n'y a plus, vous voyez tous les problèmes qu'il y a avec l'uranium, les centrales nucléaires, à partir du moment où, ça va, où on n'utilisera plus ça, il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura plus autant d'énergie. Moi, je ne pense pas qu'avec le soleil, on pourra faire tourner le monde aussi rapidement, aussi facilement. On pourra, l'humanité va perdre un peu de technologie. Et ce qui est quasiment certain par rapport aux détails qui sont donnés dans les hadiths, c'est qu'à l'époque de Dajjal, de Isa alayhi salam, de Gog et Magog, il n'y aura plus d'armes de destruction massive, il n'y aura plus de satellites, il n'y aura plus les moyens dont nous disposons aujourd'hui. Autrement, Dajjal apparaît à un endroit, en 5 secondes, un tweet fait le tour du monde. Et tout le monde est au courant que Dajjal est apparu. Tout le monde est au courant que là, Dajjal est à Khorasan. Attention, Dajjal est à Isfahan. Attention, Dajjal arrive, etc., etc. Donc, fuyez, prenez un charter, allez à Johannesburg. Il arrive que l'Afrique du Sud, prenez un avion, allez en Australie. Là, c'est pas possible. Les gens sont surpris par la venue de Dajjal. Est-ce que de nos gens, on peut être surpris par la venue de quelqu'un? Une personnalité, n'importe qui rentre, il sort, tout le monde connaît. D'accord? Mais à l'époque de Dajjal, des gens vont être surpris de la venue de cet homme qui va faire des miracles. Et quand on parle de la famine qui va sévir, on ne parle pas des pays arabes, dans le monde d'eux. Vous avez vu cette sécheresse, vous vous rappelez? Première année, le tiers de la nourriture mondiale va manquer. La deuxième année, deux tiers. La troisième année, l'intégralité. Une famine comme jamais l'humanité n'aura connue. Si on n'est pas capable de faire pousser, de planter, de récolter, etc., ça veut dire qu'on n'a plus de moyens techniques. On n'a plus d'engrais, on n'a plus tous les moyens modernes pour permettre au monde de manger. Donc ça veut dire que l'humanité va perdre toute cette technologie. Et là, nous voyons bien, et on verra quand Isa Hassan tue Dajjal, c'est pas un coup de balle, c'est avec vraiment une flèche. Et on parle d'une flèche où il y a du sang qui coule de la flèche d'une lance. Donc nous voyons que vraiment à cette époque, on reviendra aux techniques de guerre traditionnelles. Et quand on parle de l'armée de Dajjal, 70 000, est-ce qu'un homme à notre époque, en 2011, 2012, est-ce qu'une armée se déplace à 70 000? Il n'y a plus besoin de tout ça. À deux, on peut tuer comme 100 000. Vous mettez un peu des obus là, des mortiers, des je ne sais pas quoi, un char, etc. Il n'y a plus besoin. 5-6 personnes peuvent détruire un pays avec les armes. Là, Dajjal a besoin de 70 000 bonhommes. Il se déplace avec 70 000 bonhommes. Et on a vu également, lorsqu'il y aura les grandes guerres à la fin entre, on a vu les alliés musulmans, et etc., on parle d'armées qui approchent les millions d'individus. J'ai plus les chiffres exactement en tête. Je crois que 12 bannières, sous chaque bannière à peu près, je sais pas, 100 000, 200 000. C'est-à-dire qu'on avait fait le compte, ça arrive à peu près à 1 million de combattants. Est-ce qu'à notre époque, en 2012, quand il y a une guerre, est-ce que vous avez d'un côté 1 million contre 1 million? Mais jamais. Il y aura 500, 1000, 2000, 10 000, maximum. Il n'y a plus besoin de tout ça. Mais à cette époque-là, ce sera des batailles comme chez les Romains, les Grecs, les Perses et chez les Arabes, comme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, quand les musulmans seront encerclés, là on parle de la Masjid al-Aqsa, on va arrêter, et à ce moment-là, ils vont décider de lutter, de sortir le lendemain pour lutter contre Dajjal, et là, ils entendent une voix, quelqu'un qui dit que Allah a envoyé son aide, et là ils vont se dire que cette voix, c'est Ajib, ça dit c'est la voix de quelqu'un qui est en bonne santé. Pour montrer comment ils sont malades. Rajulun Shaba'an, quelqu'un qui a le ventre plein, c'est la voix de quelqu'un qui est en pleine possession de sa force. C'est pas quelqu'un parmi nous, parce que tout le monde est affaibli. Tout le monde est à la limite de l'épuisement. Et là, il va voir Isa al-Islam qui vient et qui va leur apporter donc son aide. On continue avec ce premier point de la mission de Isa al-Islam qui est de tuer Ad-Dajjal. Et on va compléter ça, Inch'Allah. Lorsque, ce qu'on avait dit en introduction, lorsque Dajjal apprend la venue de Isa alayhi salam, il fuit, le texte dit Hariban nahwa Palestine. Il fuit et il prend la direction de la Palestine. En pensant, comme on l'a dit, qu'il va éviter la rencontre avec Isa alayhi salam, alors que c'est là son destin, il va percuter, il va se retrouver face à Isa alayhi salam. Et le moment où il se rencontre, il dit Faida ra'ahu aduwullahi dhaba kama yadubul milhu fil ma. Lorsque Dajjal voit Isa alayhi salam, normalement ils font comme le sel se dissout dans l'eau. Mais Allah Ta'ala décide que Dajjal ne meurt pas aussi facilement. Falaw tarakahu lan dhaba hatta yahal. Si Allah Ta'ala aurait voulu, Dajjal serait mort immédiatement sur le champ en voyant Isa alayhi salam. Walakin, hadith imam muslim, walakin yaqtuluhu biyadi. Mais Isa alayhi salam va le tuer de sa propre main. Fayurihim damahu fi hirbati. Et il montrera aux gens le sang au bout de sa lance. Pourquoi ? Pour que les gens comprennent que cet homme n'était pas un dieu. Parce qu'un dieu, na'oudou billah, ne saigne pas. Un dieu n'est pas vaincu et un dieu ne tombe pas devant moi et ne meurt pas sur le champ de bataille. Et là, les musulmans, ils ont encore plus de yaqin, d'accord ? Mais les gens qui suivent Dajjal, cette armée de 70 000 personnes et plus, on parle de 70 000, c'est les combattants. Maintenant, il y a d'autres personnes qui le suivent. Eux aussi vont se rendre compte qu'ils étaient dans le faux. Et là, il y aura donc un affrontement entre l'armée de Isa alayhi salam et ces gens. Mais qu'on retienne bien que c'est avec une lance que Isa alayhi salam va mettre fin aux joies de Ad-Dajjal. Le hadith précise bien, quand Isa alayhi salam rejoint les musulmans de la masjid Aqsa, il va dire iftahul bab, ouvrez les portes maintenant. Fayaftahuna, et ils ouvrent les portes, et il dit wa wara'ahu ad-dajjal, et derrière cette porte il y a qui, ad-dajjal ma'ahu 70000, d'accord, avec 70000 combattants, on sait qui sera avec lui. Kulluhum dhu sayf, et ils sont armés avec des épées. Avec des épées, des parures, on parle même des voiles de couleur vert, d'accord ? C'est peut-être leur tenue, d'accord ? Fa'idha nazara ilayhi dajjal, bon là, souvent on répète parce que c'est des hadiths de chaînes de narrations différentes, mais qui parlent de la même chose. Et lorsque Dajjal le voit, il fondrait comme le sel se dissout dans l'eau, mais wayam taliqu hariba. Deuxième fois, il s'enfuit Dajjal. La première fois, il s'est enfui quand il a entendu parler de Isa al-Salam qui est venu, et là, quand il voit Isa al-Salam, il court, il s'en va. Et Isa al-Salam le poursuit. Et Isa al-Salam lui dit de loin, « Inna li fika darba » Il dit, « Je dois t'atteindre. » Et ce qui a été prédestiné, ça va se produire, ça va avoir lieu. « Fayudriku » Et à quel moment il va le rattraper? Un endroit qui s'appelle Bab Lud, qui se trouve à l'est. Hein, donc c'est en Palestine, qui se trouve dans la région, dans la zone est. À la région de Bab Lud, Isa alayhi salam peut enfin rattraper Dajjal, et là il va lancer, hein, il va donner le coup final, hein, avec sa lance, et là il va tuer Ad-Dajjal. Hadith rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah. Et puis le reste, on avait vu qu'après l'exécution de Dajjal, Isa alayhi salam revient vers les personnes, ces musulmans qui étaient restés fermes, il va passer sa main bénie sur leurs joues, essuyer leurs larmes et leur parler du haut degré qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a réservé dans le paradis. Ainsi termine la première partie de la mission de Isa alayhi salam. La deuxième partie de sa mission, c'est lutter contre les A'wan, contre l'armée de Dajjal, qui avait déclaré la guerre aux musulmans. Et on va voir que Allah ta'ala a envoyé une nusrat extraordinaire. Une telle nusrat qui se concrétisera par les combattants, par le Amir Isa alayhi salam, mais également par les êtres inanimés. Par les êtres inanimés, même les arbres, les pierres vont aider les musulmans. Quand les ennemis essaieront de se cacher à un endroit, Allah Ta'ala fait en sorte que ces créatures qui sont inertes à l'origine, ils vont se mettre à parler. On verra par la suite, la semaine prochaine, que les arbres vont se mettre à parler, à l'exception d'un arbre qu'on avait pris en photo, on verra la prochaine fois. Il y a une seule catégorie d'arbres, une catégorie d'arbres uniquement, qui ne parlera pas, qui restera muet, d'accord ? Et d'accord, mais mis à part ça, toutes les créatures vont parler. Comme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des pierres qui parlaient, il y avait un bâton qui parlait, c'est des mu'ajizas. Mais à cette époque aussi, il y aura des miracles. Mais les gens auront atteint un tel degré de iman, parce que c'est pas n'importe qui est resté là. C'est des gens qui ont lutté contre le plus grand fléau du monde. Et c'est des gens qui voient devant eux Isa alayhi salam. Donc ils ont un degré de iman exceptionnel, qui fait que pour eux, entendre un arbre parler, une pierre parler, c'est tout à fait normal, parce que le prophète l'a annoncé. Nous, on aurait eu peur, c'est quoi, je comprends, d'accord ? Mais eux, pour eux, ce sera complètement normal, parce qu'ils auront ce degré de iman. On pourrait dire comme les sahabas avaient ce degré de iman auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la deuxième étape, on verra par la prochaine fois, c'est lutter contre les ennemis qui les ont assiégés. La troisième étape, c'est inviter les gens vers l'islam, et on verra que les nasara, les chrétiens, vont embrasser l'islam massivement, parce qu'ils vont reconnaître le prophète qui va leur expliquer la vérité sur sa nature, sur sa mission et sur la réalité de sa personne. Quatrième point qu'on verra par la suite, al-qada ala ya'juj wa ma'juj, la lutte contre Gog et Magog. Et cinquièmement, apporter une baraka, une bénédiction comme jamais l'humanité n'a connu. Les plus beaux jours de l'humanité, toute époque, religion, nation confondue, ce seront ces merveilleuses années sous le contrôle, sous le Imara, avec comme Amir Isa alayhi salam, où le monde va connaître une quiétude, une tranquillité, une profusion de biens comme jamais ils l'auront connu. Et après Isa alayhi salam, jamais l'humanité n'aura connu, ne connaîtra de situation aussi catastrophique. On pourrait dire que c'est pire qu'à l'époque des Dajjal. À l'époque des Dajjal, il y a un homme qui dirige tout ça. Mais après le décès de Isa, il n'y a plus de Dajjal non plus. C'est le monde qui va s'autodétruire. Il y aura des événements qui vont avoir lieu, que la vie deviendra invivable. Et Allah Ta'ala va reprendre les choses saintes. La Kaaba sera reprise. Et là, le Coran sera repris. Parce qu'il y aura un tel degré de fitna, hein, les gens vont redevenir à l'état animal, qu'ils ne méritent plus d'avoir dans le même monde que eux la parole d'Allah. Donc là, Allah Ta'ala reprend la Kaaba, Allah Ta'ala reprend le Coran, et c'est sur ces gens-là qu'aura lieu la fin du monde Qiyam al-Sa'a. Donc ça, on verra dans les prochains programmes. Wa tawfiqillah billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.